chanson.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Quand la rue vous prend, elle vous emporte avec elle. Aujourd'hui, nous parlons de ces hommes et de ces femmes qui vivent dehors, qui hantent les rues, les bouches de métro, les parkings. Qui sont ces invisibles qu'on ne saurait voir? Quels accidents de vie les ont enfermés dehors? Quelles stratégies déploient-ils jour après jour pour survivre? Et comment les aider à sortir de la rue? Avec nous, pour en parler, Claire Lajeunie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé le documentaire « Femmes invisibles, survivre dans la rue », rediffusé récemment sur la chaîne de télé France 5. En France, 2 personnes sans abri sur 5 sont des femmes, plus vulnérables évidemment que les hommes. De ce documentaire, vous avez tiré un livre sur la route des invisibles femmes dans la rue. Bonjour Elina Dumont.
Bonjour.
Vous avez vous-même vécu près de 15 ans à la rue. Aujourd'hui, vous vous en êtes échappé. Vous nous raconterez comment vous avez réussi à mettre cette histoire derrière vous. Bonjour Marianne Storojanko.
Bonjour.
Vous êtes la directrice par intérim de l'association La Mie de Pain, qui vient en aide aux sans-abri. Association qui gère, je crois, le plus grand centre d'hébergement de France. C'est bien ça. Les voisins, les voisines, connaissez-vous des personnes qui vivent dans la rue? Si oui, que faites-vous pour les aider? On attend vos témoignages ou vos questions, si vous en avez pour nos invités, au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et vous nous écrivez déjà sur Facebook, les voisins. Archiduc Théodore est à N'Djamena au Tchad. Il nous écrit « Les hommes qui vivent dans la rue sont souvent victimes de maladies mentales, séquelles de leur situation. Pour les aider, il faut les approcher, les nourrir, les habiller, les soigner et les loger. Moi, je leur offre l'aumône quand je peux. » Abou Bakar nous écrit aussi depuis N'Djamena. Il nous dit « J'ai connu une femme qui vivait dans la rue lorsque j'étais en 5e. Je la voyais tous les jours en allant au collège et en rentrant chez moi. Elle me demandait de l'argent et puis elle me remerciait quand je lui en donnais, mais elle ne s'en est jamais sortie. » Je vous lis aussi le cri du cœur de Fayala à Conakry. Les gens de la rue sont désespérés et parfois en deviennent fous. Il faut absolument les aider. Et puis Brice partage ce constat depuis Yaoundé au Cameroun. L'État doit absolument trouver des logements à ces SDF. C'est ça, la vraie solution au problème. On estime, selon la Fondation Abbé Pierre, que vivent en France 143 000 personnes sans domicile. Sans domicile, ça veut dire à la rue, sous un abri de fortune, en hébergement collectif, à l'hôtel ou alors en centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et ce chiffre, Marianne Storojanko, augmente d'année en année.
Malheureusement, oui, c'est un terrible constat qu'il faut faire. Les personnes sont de plus en plus en difficulté. Il y a de plus en plus de personnes qui basculent dans une certaine précarité. Et puis, lentement, elles sont aspirées vers l'exclusion, vers l'abandon, vers le désespoir. Au stade où j'en suis, on ne peut pas être pire, et puis on s'en moque. Et puis, hop, on dévale la pente très facilement. Et après, toute la difficulté est de remonter cette pente. Mmh. Avec, j'ai retenu quelques témoignages de vos témoignages, c'est vrai, les troubles psychiatriques qui rendent fou. Est-on fou parce que la rue nous a rendus fous, ou est-on allé à la rue parce qu'on était fou? Je ne sais pas.
Mmh. C'est le même problème avec les addictions d'ailleurs, à la drogue, à
totalement.
L'alcool.
Et ce qu'il faut par contre, c'est constater et arriver à apporter une aide, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit sociale, à ces personnes qui, à un certain moment, se sont pris les pieds dans le tapis et ont glissé.
Et comment expliquer que ce phénomène semble s'accentuer d'année en année?
C'est délicat à connaître. Si on connaissait la cause, on saurait éradiquer et arrêter cette progression. Je pense que nous avons vécu, notamment en Europe, quelques crises économiques qui n'ont pas facilité les choses. Il y a également le chômage qui génère et induit ces mises à la rue qui sont les initiateurs de la dégringolade. Mmh. Alors certes, il y a le logement, mais il n'y a pas que. Il y a le travail, c'est très important de travailler, c'est structurant.
Oui, souvent la perte d'un emploi peut aussi conduire à la rue. Claire Lagenie, vous avez réalisé un documentaire sur les femmes qui vivent à la rue, de plus en plus nombreuses en France. Je vous propose, les voisins, d'écouter un extrait de ce documentaire. Nous sommes avec Barbara, 26 ans, qui fait la manche en plein Paris.
Bonsoir, s'il vous plaît, vous pourriez m'aider? Bonne soirée, merci. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça sert pour manger. Bon, moi je bois pas, donc pas pour à boire. Mais bon, pour comment dire, pour mieux le vivre.
Et toi, tu vas en faire quoi?
Je vais me droguer, hein. Ça nous occupe, ça fait passer le temps et c'est vrai qu'après, on se fout un peu plus du regard des autres, quoi. Du mépris, de l'ignorance, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, quoi, voilà. La première fois, au début, j'osais pas, je demandais pas. Bonsoir, Il y a même une fois où j'ai tellement eu honte, j'ai fait une pancarte. Et comme je voulais pas faire une pancarte, aidez-moi, je veux des sous. J'ai dit désolé, j'ai trop honte de demander. Je me suis cachée toute la journée derrière ma... Enfin, pas toute la journée, hein. J'ai vite abandonné en fait. Je crois 2 heures en fait. Et je pleurais derrière en plus. Mais bon, ils ont été généreux les gens.
À Paris, elles seraient 7000 à vivre dehors, Claire Lagenie. Qu'est-ce qui les a menées là, ces femmes-là, dans la rue?
Un peu tout, on reprend effectivement le constat dont vous parlez, c'est-à-dire effectivement une rupture familiale, une perte d'emploi, une dégringolade vraiment de base. Toutes ont connu une rupture, en tout cas toutes celles que j'ai rencontrées, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Et puis voilà, l'envie de se dire à Paris, je vais trouver une solution, il y a des associations, et puis finalement, on est très seul, quoi.
Pourquoi vous êtes intéressée aux femmes?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que j'avais vu un sondage qui disait que plus de la moitié des Français avaient vraiment l'angoisse de se retrouver à la rue un jour.
C'est énorme.
Donc, c'est quand même énorme.
C'est
impressionnant. Et donc, c'est vrai que moi-même, on a tous eu ce sentiment en se disant, si un jour je perds mon emploi, etc., est-ce que je peux me retrouver à la rue? Ah non, ça peut pas m'arriver. J'ai de la famille, j'ai des copains, etc. Et finalement, donc je me suis dit, est-ce que finalement ça peut m'arriver? Donc c'était la première interrogation. Et la deuxième, c'est que je trouvais au feu rouge, dans des restaurants, aux abords de magasins, je voyais des femmes qui me ressemblaient et qui avaient pas l'air d'avoir un abri, quoi, et qui ne ressemblaient pas du tout à la caricature qu'on fait des femmes dans la rue, c'est-à-dire la clocharde qui boit et qui est complètement hors de tout. En fait, ces femmes nous ressemblent. Et donc, voilà, mon envie, c'était de rester sur le fil et d'essayer de trouver des femmes, voilà, qui ont une rupture, qui vivent à la rue. Et voilà, petit à petit, j'ai eu envie de faire ce film.
Et ce sont des femmes qui se battent jour après jour pour survivre. Elina Dumont, vous avez vécu à la rue pendant près de 15 ans. Oui. Comment en êtes-vous arrivée là?
Alors, moi, je fais partie d'une catégorie qui pourrait éviter la rue, et en 2017 c'est toujours le cas. Je suis partie de ces jeunes qui étaient, à l'époque on disait la DAS, maintenant ils mettent l'aide sociale à l'enfance, et à 18 ans je suis majeure et l'aide sociale à l'enfance me met à la rue. Et là il y a un quart des jeunes quand même à 18 ans qui sont à la rue, qui viennent de l'institution, et moi je trouve ça, je suis outrée, quoi. Ça c'est l'État, hein. Donc voilà, c'est je suis désolée, l'institution peut pas arracher des enfants à des parents pour les foutre à la rue à 18 ans.
À la majorité.
Et voilà, moi je fais partie de cette catégorie. Alors comme j'avais pas de famille, j'ai pendant plus de 15 ans, pour vous dire, j'ai eu mon appartement à 44 ans. Vous voyez, j'ai mis du temps quand même. Hein.
Et quel était votre quotidien? Comment vous faisiez?
Alors,
pour survivre?
Pendant un an, j'ai fait, moi, ce que j'appelle et ce qu'on dit dans la rue, j'ai fait un an de rue sèche. Parce que la première, quand vous êtes dans la rue, vous savez pas. Vous ne savez même pas que le 115 existe. Donc, vous allez au gré des rencontres. Après, vous utilisez les combines aussi. Parce que vous êtes roublard quand vous êtes à la rue, vous êtes obligé. De toute façon, c'est les roublards qui s'en sortent. Ceux qui sont trop faibles, ils se clochardisent. Et puis, à un moment donné, ils tombent. Donc, j'ai utilisé les boîtes de nuit. Parce que même encore en 2017, c'est gratuit pour les filles du lundi au jeudi.
Donc vous alliez en boîte de nuit?
Ouais, mais j'y allais pour dormir.
Pour dormir.
Mais bon, je dansais un peu, puis après je dormais. Les hommes aussi, il faut savoir que les hommes, quand ils voient une petite minette qui est un peu paumée, on se dit, on va profiter un peu d'elle. Bon, moi, j'étais pas débile, je savais qu'ils m'embarquaient pas chez eux pour mes beaux yeux. Donc, en fait, comment on s'en sort? Bah déjà, on se sacrifie énormément. Moi, j'ai travaillé pour beaucoup d'employeurs au noir, pas déclarés, oui, au noir, sous-payés, il fallait que je couche avec. Enfin, vous êtes obligés de vous sacrifier. Vous pouvez pas dire, ouais, il y a le prud'homme. Non, ça, vous pouvez pas, ça. C'est comme ça.
Vous acceptez tous les endroits qu'on vous propose.
Voilà, tous les endroits. Après, bon, il y a les squats des copains, il y a les centres d'hébergement, mais là, je les ai fait très peu de temps parce que c'était trop violent pour moi. Il y a une violence, puisque la misère est concentrée. Donc, c'était, puis en plus, voilà, c'est horrible, quoi. Et, j'ai utilisé toutes les combines inimaginables. J'allais dans un café, je faisais croire que j'allais payer mon café, et puis, ah merde, j'ai oublié mon porte-monnaie, quoi. Et puis je partais. Et puis voilà.
La débrouille voilà. Au jour le jour.
C'est la débrouille, le jour le jour.
Et à quoi vous pensiez au quotidien, à ce moment-là ?
Alors, au quotidien, ma seule obsession, c'était où j'allais manger, où j'allais dormir. Et c'est tout, quoi. Je pensais même pas à me doucher, pour vous dire. Et puis, pour passer le temps, sans doute, avec mes potes, ben, on buvait beaucoup dans les bars. Ça, je m'en rappelle, j'ai passé beaucoup de temps dans les bars. Parce qu'il faut savoir que dans les bars, on est invisible.
Dans la rue, on passe plus inaperçu que dans la rue.
On passe inaperçu dans les bars. Donc voilà, puis on a bien rigolé. Enfin, des fois, on rigolait pas. Enfin, vous voyez, on vit au jour le jour, quoi. Sans se poser de questions, on vit le moment présent.
Ouais. Voilà. On va vous parler des douches, hein. On va en reparler puisque on va entendre un nouvel extrait de votre documentaire Claire Lajeunie. Vous êtes cette fois avec Myriam, cheveux frisés, bruns, œil vif. Elle fait étape dans le mobile douche, un bus itinérant qui sillonne Paris et sa banlieue pour en fait proposer des douches aux personnes sans abri. Mais d'abord, Too Late to Say Goodbye de Cage the Elephant.
Comme ça.
Ah oui, ça je dis pas non.
Comment t'as mis tes cheveux?
Oui, ils sont comme ça. Je les attache tout le temps parce que quand vous avez les cheveux attachés, des fois la nuit, quand vous prenez le bus, on voit pas si vous êtes homme ou femme. Des fois on me confond avec un homme, je me dis bah tant mieux, au moins je suis un peu chanceuse. Alors, je suis assez organisée dans l'ensemble au niveau de mon sac. C'est-à-dire qu'on voit pas où est mon sac à main, où est. Parce qu'il y a beaucoup de vols. Donc vous ne montrez pas que vous avez quoi que ce soit sur vous, même si vous avez 10 euros, vous ne montrez pas non plus. Là, je suis habillée comme une petite jeune. Avant, je m'habillais très féminine, il y a tout ça qui est parti aussi. Il n'y a plus rien. C'est vous débrouiller avec des petites crèmes à 2 euros au Leader Price. C'est tout. Et c'est comme ça. Des fois, je suis irritable à cause de ça aussi. Le stress, le cumul, le fait de naviguer toute la nuit, de chercher un petit endroit au chaud, mais vous n'avez pas vraiment d'endroit au chaud. Parce que même si vous vous posez avec votre duvet dans un petit coin, il y a toujours quelqu'un qui passe entre deux. Donc quand vous posez un sac, vous n'êtes pas tranquille. Vous voulez aller aux toilettes, bah, tiens, t'es obligé de demander à quelqu'un de surveiller. La personne n'est pas censée surveiller votre sac, elle n'est pas là pour ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Extrait de votre documentaire Claire Lajeunie, Femmes invisibles survivre dans la rue avec Myriam qui vit dans la rue depuis plus de 5 ans. Elina Dumont, ça vous parle, ces difficultés d'accès à l'hygiène ?
Bah oui, parce que Moi, je sais ce qui m'a marqué dans ma vie quand j'étais sans domicile fixe, c'est par exemple pour uriner. C'est quand même dingue, et même dernièrement j'ai fait une pétition à la mairie de Paris pour dénoncer le fait que les sanisettes n'étaient pas ouvertes 24 heures sur 24. Voilà.
Les toilettes publiques.
Bon, il paraît que ça va s'arranger. On m'a dit que ça allait s'arranger. Je l'espère en tout cas. Et il y a un deuxième, c'est un peu trash ce que je vais vous dire, mais ça m'a marqué parce que je me rappelle, j'ai même encore la tête de la pharmacienne dans ma tête. Un jour j'avais mes règles et je suis allée voir la pharmacienne et j'ai dit vous pourriez pas me donner une serviette. Elle m'a dit non. Elle m'a dit bah c'est en vente là. Mais j'ai dit, mais moi j'ai pas d'argent. Elle m'a rien donné. J'ai été obligée de prendre des journaux. Mmh. Et ça, c'est des trucs. Parce que quand vous êtes à la rue, vous pouvez pas prévoir le mercredi à 17h ce qui va vous arriver, quoi. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a des associations quand même qui font les maraudes, qui distribuent des serviettes hygiéniques. Mais c'est un détail. Mais personne n'y pense à des choses comme ça. Personne. Mmh. Tout le monde croit que la rue, c'est. On mange et on dort. Mais non, il n'y a pas que ça. Mmh. On a envie de sentir bon aussi, des fois.
Oui, et puis la question effectivement des douches, hein, vous le racontez dans votre film Claire Lajeunie. Barbara raconte qu'elle ne prend qu'une douche par semaine dans les bains-douches municipaux de Paris où les douches sont gratuites. Une douche par semaine, effectivement, elle est soulagée, apaisée quand elle peut le faire, mais elle le fait peu en fait.
Alors elles ont aussi des astuces, les petites lingettes bébés, enfin voilà. C'est vraiment un signe où on s'enfonce pas en fait. Le fait de faire attention et même le fait de prendre une douche par jour veut dire qu'on n'a pas basculé encore totalement dans la clochardisation en fait. Mmh. Voilà, parce qu'à partir du moment où on lâche prise avec l'hygiène, c'est très mauvais signe. Donc c'est vrai que c'est important de le dire parce que c'est pour ça qu'il y a des associations de plus en plus qui essayent d'ouvrir des lieux, de faire des mobiles douches, de faire parce que effectivement c'est la façon de les retenir un peu à la vraie vie quoi.
Mmh. Puis il y a la question aussi de la féminité, Elina Dumont. Comment on la vit dans un tel contexte ?
On la vit pas. Enfin personnellement, on se bonomise. Voilà, parce que c'est quand on est une fille à la rue, on peut pas se promener en mini-jupe. Il y a le danger des hommes quand même, hein. Excusez-moi. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à dire que quand je parle des dangers des hommes, il est autant dans la grande bourgeoisie que chez la racaille. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que moi, par exemple, j'ai été abusée énormément par des gens de la bourgeoisie qui m'emmenaient dans les boîtes de nuit. Donc voilà, le danger est partout. Surtout
oui,
quand on est jeune et qu'on a 18 ans.
Il vient pas forcément d'autres sans-abri masculins.
Comment ?
Il vient pas forcément d'autres sans-abri.
Non, moi d'ailleurs, par les sans-abri, ils m'ont jamais rien fait, moi. Hein. Mm. Honnêtement.
Et quelle différence, Claire Lajeunie, dans ce que ces femmes à la rue vivent par rapport aux hommes ?
En fait, moi, ce qui m'a surprise, c'est qu'en fait, elles sont très seules. Elles sont assez solitaires. Mm. En fait, les hommes se regroupent en bande, en communauté, en amitié. Les femmes, pour justement passer le plus possible inaperçues, pour se cacher, pour rester invisibles, elles sont seules. Donc, il y en a qui vont aller dans les boîtes de nuit toutes seules. Il y en a qui vont prendre le métro toute la journée la même ligne, mais plutôt d'une façon, elles passent inaperçues. Elles vont aller des heures au même café, en prenant juste un petit café, mais bon, les gens passent autour d'elles, on les voit pas, dans les gares, beaucoup. Mais, seules, comme ça, on montre pas qu'on est un phénomène de groupe. Et moi, ça m'a surpris, parce que je pensais qu'on pouvait se protéger à plusieurs, et les femmes, entre elles, sont... Je trouve que c'est la grosse différence entre les hommes et les femmes.
Oui.
Mmh. Pour éviter d'être des proies, on va se cacher.
Exactement. Voilà.
Marianne Sauringer-Jenco, qu'est-ce que vous proposez, vous, à la Mitepin, pour accompagner peut-être ce public un peu particulier que constituent les femmes ?
Alors nous avons ouvert une structure femmes en décembre, de 59 places. Et la première chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est sur le bien-être et l'image de soi. C'est vrai que les sanitaires sont nickel. On a vraiment réhabilité ces locaux de façon à ce que l'on ait plaisir à prendre sa douche, à prendre soin de soi. Les produits d'hygiène, voilà, c'était notre premier souci. Nous travaillons beaucoup aussi avec des coiffeurs, des esthéticiens, avec des gens qui redonnent la féminité, qui refont apparaître le « on est bien ». On est au calme, on est paisible, on se pose et on redevient ce que l'on est en fait, c'est-à-dire qu'on reprend conscience qu'on est une femme avec des choses amusantes. Une des toutes premières personnes que nous avons accueillies nous a demandé si elle pouvait se remettre à tricoter. Je l'avais regardée, j'ai éclaté de rire, j'ai dit oui, j'avais pas pensé à ça. Si, c'était son plaisir. Elle avait appris lorsqu'elle était petite à tricoter, et donc immédiatement on lui a apporté laine et aiguilles afin que...
Un plaisir qui peut paraître anecdotique, mais qui lui paraissait important à ce moment-là.
Elle se retrouvait.
Marianne Sauringer-Jenco, Claire Lajeunie, Elina Dumont, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le flash d'infos sur RFI. Les voisins, les voisines, on attend vos points de vue, vos témoignages. Si vous connaissez des personnes qui vivent à la rue, si vous les aidez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. A tout de suite dans 3 minutes.
Écho d'ici.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour parler aujourd'hui des personnes sans abri. Un accident de santé, la perte d'un emploi, une rupture amoureuse ou une nouvelle addiction, l'alcool, la drogue. Quelle trajectoire de vie peuvent mener à la rue? Oubliés, souvent invisibles, vivant parfois dans la crainte du regard des autres. Quelle chance ont ces hommes et ces femmes de la rue de s'en sortir? Et puis, comment les accompagner, comment les aider à se réinsérer dans la société? C'est ce que l'on propose à la MITPIN, association que dirige Marianne Storajanko, notre invitée. Nous sommes également en compagnie de la réalisatrice Claire Lajeuny, auteure d'un documentaire sur les femmes sans-abri, documentaire dont vous avez tiré un livre publié aux éditions Michalon. Avec nous autour de la table, la lumineuse Elina Dumont, vous êtes venue nous raconter votre histoire, votre parcours qui donne de l'espoir. Vous qui avez vécu dans la rue pendant près de 15 ans, alors quelle solution pour les personnes sans domicile? Dans le 5e arrondissement de Paris, l'association Les Enfants du Canal leur propose un accueil de très longue durée dans un centre d'hébergement qui compte 25 chambres. Dans ce centre, les résidents participent au loyer à hauteur de 20% de leurs revenus, s'ils le peuvent. Jean-Paul et Annie, la soixantaine, vivent ici depuis 4 ans, alors qu'ailleurs la durée d'accueil est habituellement beaucoup plus courte. Visite d'un lieu unique en son genre, au micro d'Alice Minou.
Alors là, nous arrivons en cuisine. Alors la cuisine, vous allez vous poser la question, pourquoi il y a autant de frigos? C'est rempli de frigos parce que chaque résident a un frigo individuel. Je vous montre, on va prendre par exemple les nôtres, on ouvre ça.
Donc là on voit il y a des steaks et des yaourts.
Voilà, c'est la structure qui nous fournit. C'est-à-dire que toutes les semaines, un camion part à la banque alimentaire à Arcueil. Et on a nos frigos qui sont remplis, c'est-à-dire qu'on a de la viande, on a ce qu'il faut à manger pour la semaine. On ne peut pas mourir de faim. Bon, dans la rue, on arrive toujours à se nourrir, mais de manière plus ou moins efficace. Dès qu'on a un peu d'argent, alors on ne sait pas où aller, c'est un grec, un truc comme ça. Bon, on ne fait pas attention à ce qu'on ingurgite. Tandis qu'ici, quelqu'un qui veut le faire, il peut prendre un steak, par exemple du poisson, équilibré avec autre chose. On a le temps, et puis on n'a que ça à faire, de s'équilibrer un menu. On peut prendre des légumes verts, on peut prendre des fibres, on peut prendre des trucs. On a le temps de faire ça. On a le choix. Tandis que dans la rue, on n'a pas le choix.
On continue?
Ah ben oui.
Et dans notre hôtel qui est français.
Salut Michel. Salut. On arrive au deuxième étage, et là on va arriver à notre chambre. Et c'est au numéro 27.
C'est là.
Voilà, c'est ici.
Alors voilà, rentrée.
Donc là, c'est chez vous.
Ça, allez. C'est chez nous. Voilà, un petit chien.
Allez, dépêche-toi.
Ici, vous êtes dans une chambre pour couple. Mmh. Donc la superficie, on va dire qu'elle fait 15-16 mètres carrés. Un petit chien accepté. Chambre pour couple. Donc, vous voyez, assez d'espace.
Ici.
De quoi quand même vivre agréablement.
Vous avez un grand lit double avec un coin bibliothèque, télévision, bureau.
Oui, mais alors ça, le coin bibliothèque, télévision, bureau, tout le monde ne l'a pas. Nous avons été expulsés, donc nous avons pu récupérer quelques meubles. Et ici, ils acceptent qu'on amène nos meubles. Hein.
Comment vous vous êtes retrouvés dans cette structure?
On avait un appartement dans le 19e arrondissement qui appartenait aux petits frères des pauvres. Je ne sais pas si vous connaissez l'association. Et puis, on a eu quelques petits soucis avec eux, et puis bon, mais on s'est retrouvés à la rue.
Alors, on va le dire franchement, expulsé de l'appartement pour les impayés de loyer, mauvaise gestion. Et 2012, on s'est retrouvés Gare de l'Est, dehors donc, du mois d'avril jusqu'à fin octobre. Voilà. Et ensuite, on s'est retrouvés au bois de Vincennes, sous un campement de fortune, quoi. Hein. Le tout a duré 7 mois.
Et on a rencontré quelqu'un qui faisait les maraudes de la ville de Paris, et qui nous a mis ici, qui a fait en sorte que nous trouvions une place ici parce qu'on avait le chien. Parce qu'on avait eu des propositions avant, mais il fallait se débarrasser du chien, et nous, il était hors de question qu'on se débarrasse de notre petit chien.
Et alors, racontez-moi du coup ces 7 mois, comment vous les avez vécus? Comment vous vous organisiez au quotidien?
Alors, on avait récupéré un chariot de... Vous savez, à la gare, il y a des grands chariots, vous savez. Alors, on avait mis toutes nos valises dessus, et puis tous les matins, on chargeait les valises, le soir on les posait par terre, moi je dormais sur une valise, sur deux valises, lui dormait par terre avec des cartons puis des duvets quoi. C'est sous un abri, un ancien abri de bus qui n'existait plus quoi. Et puis au moment des élections, bon, on s'est fait virer de cet abri. Et de là on est parti au bord du canal Saint-Martin. Et là aussi c'est pareil, bon, la nuit quand il pleuvait, il fallait se trouver un abri, c'était pas toujours évident. Moi j'ai été agressée deux fois, donc après on est parti au bois de Vincennes.
Pourquoi là-bas?
Mais parce que là-bas, ben, on avait des gens qu'on avait connus, qui nous voyaient tous les jours, avec qui on avait sympathisé, nous avaient donné deux tentes. Et du coup on est parti au bois de Vincennes planter les tentes, parce qu'autrement au bord du canal on pouvait pas, c'était interdit. Enfin, pour moi, c'était dur. Je ne pouvais pas aller quand même aux douches tous les jours, donc je me faisais chauffer de l'eau, je me lavais dans la tente. C'est pas toujours évident.
Et moi, je pense que c'est les conditions climatiques qui ont fait que c'était très dur au bois, parce que lorsqu'il pleut, il fait très humide aussi. Vous dormez la nuit dans des duvets qui sont mouillés. Mais au niveau d'être rassuré, je ne sais pas si c'est psychologique, la grande tente qu'on avait, etc., ou les gens qui étaient à côté, c'est plus rassurant que d'être en plein milieu de la ville.
On n'était pas que tous les deux, il y avait deux autres personnes avec nous, qu'on avait connues aussi, qui étaient dans la rue. On était ensemble.
Voilà, donc nous on avait eu cette stratégie d'être en groupe pour pouvoir s'entraider, au fait. Et puis il y a un phénomène d'entraide, hein. Il y a les Restos du Cœur. Alors ça, nous, les Restos du Cœur, qu'est-ce qu'on a pu y aller? Et qu'est-ce que les Restos du Cœur sont devenus indispensables? C'est quelque chose d'extraordinaire.
Quand vous étiez à la rue, vous aviez des revenus, ça? Vous aviez le revenu minimum, le RSA?
Dès qu'on touchait le RSA ou l'équivalent de la Cotorep, on se disait, ouf, on va se payer 3 ou 4 jours à l'hôtel. Et
ça.
Boum, là, ça creuse. Pendant 3 jours, on est au chaud pendant 3 ou 4 jours. Et on oublie la rue. Malheureusement, après, il faut y retourner.
Vous n'aviez pas de famille pour vous aider après votre expulsion?
Non. Et puis on est bouillé avec la famille, alors c'est pas la peine.
Et surtout, nous n'avons pas voulu dire à nos enfants qu'on était un petit peu dans le creux, quoi. Un gros creux même, personne ne le sait. Parce que c'est pas parce que vous êtes chez vous, bien, etc. Rien ne peut tout faire basculer. Et on ne se rend pas compte. Au départ, on ne fait pas attention, mais c'est pas grave. Et tout d'un coup, après la machine s'emballe et on se retrouve très très vite à la rue.
Comment vous réagissez à l'écoute de ce reportage signé Alice Milo, Elena Dumont?
Oui, je reconnais bien toutes les possibilités d'être à la rue. Ce que j'ai envie de dire, c'est que être à la rue quand on a 18 ans, c'est pas du tout la même chose déjà que quand on a 50 ans.
Et qu'on est en couple.
Voilà, qu'on est en couple. Parce que moi, j'avais jamais rien eu. J'avais tout à construire. Alors que quelqu'un qui a tout eu et qui se retrouve sans rien, c'est encore un autre profil, quoi.
Et on n'en parle pas forcément à son entourage, Claire Lajeuny. Qu'en est-il des femmes que vous avez rencontrées pour le documentaire?
Ah oui, il y a la honte, évidemment. Il y a l'envie de... Bon, d'abord, il y a la coupure familiale. Donc, effectivement, rupture, on n'en parle pas. Parce que de toute façon, on est parti en se disant qu'on allait essayer de s'en sortir. Puis on s'en sort pas, donc on n'a pas du tout envie de les rappeler en disant à l'aide parce que ça marche pas. Et puis oui, ce sentiment de honte, ce sentiment de pas assumer de ce qui nous arrive, très difficile. Ça a été d'ailleurs très difficile de convaincre des femmes d'accepter d'être filmées, puisque justement c'était montrer dans quel état elles vivaient, de quelle façon elles vivaient.
Certaines ont refusé d'être filmées.
Beaucoup, puisque justement, envie de protéger les enfants avec qui elles avaient coupé les ponts, pas envie justement de peu de familles avec laquelle elles avaient des liens, pas envie de les couper. Très risqué, quoi.
On a une question d'une voisine, d'une auditrice, Marie Lévine, qui nous écrit sur Facebook. Elle est en région parisienne. Une question pour vous, Elina Dumont. Vous qui avez évoqué les conditions de vie dans centre d'hébergement. Alors, cette voisine s'interroge. J'ai entendu quelques sans-abri dire les mêmes choses. Je suis très étonnée à l'idée que les conditions de ces centres soient aussi déplorables. Pouvez-vous les préciser et quels seraient les changements à apporter dans l'organisation de ces centres d'hébergement?
Alors, déjà, moi, à mon époque, parce que pour vous dire, moi, j'ai connu la rue sans le RMI. Alors, vous imaginez, c'est encore plus galère qu'aujourd'hui.
Sans le revenu de solidarité.
Maintenant, on dit le RSA, mais... Et moi, en tout cas, tous les centres d'hébergement que j'ai fait à l'époque, je me faisais... De toute façon, c'était... Soit je ressortais avec des poux, enfin, je ressortais toujours avec quelque chose. C'était très violent. Vol. Et puis, il y a cette misère qui est complètement... Vous voyez, entre les cas psychiatriques, l'autre qui a trop bu, l'autre qui pue. Enfin, bon, c'est impossible, quoi. Alors, moi, j'ai connu beaucoup les dortoirs. Hein. Je pense et j'espère, mais je vais pouvoir vous dire l'inverse, qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué. Mais quand j'ai écrit mon livre en 2013, et que, évidemment, plein de sans domicile fixe sont venus vers moi, et aujourd'hui, je lutte toujours contre l'exclusion, je m'occupe toujours des sans domicile fixe, parce que c'est trop violent pour moi de les voir à la rue. Ça me fait trop de peine. Et ben, ils me disent la même chose que moi, je racontais il y a plus de 20 ans.
Et qu'est-ce qu'il faudrait changer alors pour vous dans ces centres-là?
Il faut arrêter déjà les dortoirs, il faut arrêter l'histoire des périodes courtes. Déjà, moi je trouve que les centres d'hébergement d'urgence ne devraient même pas exister, puisque ça sert à rien, puisqu'ils vous gardent 3 jours pour vous refouter à la rue. Donc ça, pour moi ça n'a aucun intérêt. Non, pour moi c'est tous ces centres d'hébergement, soit individuels ou par dortoir, à vie devraient être transformés en studio et que des gens y vivent à vie, point barre quoi. Parce que là c'est un business quoi.
Enfin, il y a des rotations.
Ben oui, et puis c'est un business. Faut savoir que quand même l'État verse de l'argent pour chaque lit. Tout ça, et des fois, comment on explique que malgré l'argent qui est versé, on ressort quand même avec des poux? Non, il y a un problème là.
Marianne Storojinko, avec la Mitepin, vous gérez un centre d'hébergement d'urgence à Paris qui accueille 419 personnes. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ce centre-là a été rénové, a fait l'objet de grands travaux.
Alors le refuge qui accueille 360 hommes a été rénové, a été réouvert en 2014. Nous proposons essentiellement des chambres soit individuelles, soit doubles. Et le centre des femmes qui a été ouvert donc en décembre dernier accueille dans des chambres essentiellement doubles, puisque nous n'avions pas suffisamment de place. Nous sommes excessivement attentifs à tout ce qui est hygiène et à tout ce qui est propreté des locaux, que ce soit en interne, enfin dans les chambres, ou que ce soit à l'extérieur. Alors, on demande aux personnes hébergées qu'elles participent à l'entretien de leur chambre, nous leur donnons un coup de main, et nous sommes excessivement vigilants. Ça ne veut pas dire que récemment on a eu une micro-épidémie de gale, bon voilà, il y a eu 4-4 gales, ça a été branle-bas de combat, on l'a réglé. Mais nous accueillons aussi les personnes qui viennent directement de la rue, qui, elles, refusent de se poser sur un long terme. Je suis surprise d'ailleurs. Notamment lorsque nous avons ouvert le centre pour femmes, on a proposé à des femmes qui venaient à l'accueil de jour d'être hébergées sur un long terme. Elles ont fait un essai de 2 jours. Et au bout de 2 jours, elles sont parties en disant qu'elles ne pouvaient pas. Alors oui, il y a du collectif, puisqu'il y a une salle à manger où nous servons les repas. Hein, près de 1000 repas par jour sont servis à la Mitepin, préparés sur place. Et pourtant, elles ont leur espace, les vrais, les chambres sont doubles. Et malgré ça, elles ont préféré rejoindre leur squat. Ce qui signifie que le logement est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un travail à faire sur le rapport à son passé, sur le rapport à soi-même, sur se reconnaître des droits. C'est très facile de tomber dans l'exclusion, c'est très difficile de remonter.
Oui, justement, je voudrais rebondir. En fait, c'est pas grave de tomber à la rue 2 jours, c'est d'y rester très longtemps. Et plus vous restez longtemps, parce que moi, quand j'ai eu mon appartement à 44 ans, j'ai fait une dépression pendant 6 mois et j'ai pas pu y habiter dans cet appartement.
Le temps de vous adapter, en fait.
Je n'ai pas pu parce que je savais pas quoi faire de cet espace. Et j'allais dormir partout, sauf chez moi. Et j'ai dû retourner voir le psy et tout, parce que c'était... Je pouvais pas. C'est pour ça que il faut que l'État, au lieu de laisser les gens dans la durée, parce que au bout de 15 ans, c'est sûr que pour retourner dans un espace, et aujourd'hui, moi, je fais des crises de panique, j'aime pas l'enfermement, mais évidemment, la rue vous rend dingue, quoi. Et tout à coup, vous vous retrouvez dans un studio de 20 mètres carrés, ben là, c'est panique à bord, quoi.
J'aimerais qu'on revienne néanmoins sur cet hébergement d'urgence. En France, il existerait 128 000 places d'hébergement d'urgence, mais le 115, donc ce numéro d'urgence qu'on appelle pour être orienté vers ces endroits, vers ces places d'urgence, est saturé. D'ailleurs, on le voit dans votre film Claire Lajeunie, on voit deux femmes, Myriam et Martine, qui vivent dans la rue, attendre désespérément qu'on leur réponde au bout du fil, et puis finalement, elles finissent par renoncer.
C'est ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas ne pas parler du 115, donc dans le document on s'est dit, on va faire une vraie séquence en situation, hein, puisque moi je passais beaucoup de temps avec ces femmes sur leur quotidien, et du coup un soir je suis restée avec elles aussi longtemps qu'il a fallu pour essayer de joindre le 115, et la scène est édifiante, quoi. C'est-à-dire qu'elles mettent 3 quarts d'heure pour avoir quelqu'un, elles finissent par avoir quelqu'un. C'est quand même deux femmes, une Martine, 56 ans, dans la rue depuis plusieurs nuits sans hébergement, hein, à dormir dans les bus de nuit et dans les gares et dans les parkings souterrains, donc vraiment épuisées de fatigue. Ce jour-là, je crois qu'il fait moins 3 à Paris. Elles arrivent finalement à joindre la plateforme et qui leur dit « Rappelez-moi dans 5 minutes, c'est un petit peu trop tôt, je n'ai pas les chiffres encore ». Voilà. Et elles essayent de rappeler au bout de 5 minutes, et évidemment, le standard est saturé.
Et attendez, le pire dans l'histoire, ça, faut que les gens le sachent. Quand vous appelez, faut prouver que vous êtes à la rue. Alors, moi, j'y ai tous les sans domicile fixe, même d'un jour, dites que vous êtes à la rue depuis 2 ans. Vous êtes sûr que... Non, mais c'est quand même dingue, quoi.
Et comment prouver qu'on est à la rue?
Oui, voilà. Non, mais tu te rends compte?
Ouais, c'est très difficile, même une fois qu'on a ce numéro au bout du fil. Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un instant pour parler de ce qui peut aider ces hommes et ces femmes de la rue à se relever. C'est Paradise Circus de Massive Attack. Et nous sommes en ligne avec un voisin, Abdoulaye, qui est à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Charlie, je suis juste en face de vous en fait.
À Issy-les-Moulineaux, en effet, pas loin de RFI. On vous écoute.
Moi, je voulais apporter un témoignage au sujet d'un voisin qui, quand vous prenez le tram, pour ceux qui connaissent, c'est à l'arrêt Les Moulineaux. Il y a un SDF qui est là sous le pont et qui ne dérange personne. Il ne va vers personne, il ne demande pas, il ne quémande pas, il est assis ou alors sous sa petite tente. Et ce qui m'a frappé, c'est... il n'y a pas d'indifférence. Les passants s'arrêtent parfois, très souvent. Il y a beaucoup de gens qui, en revenant du travail ou en revenant des courses, s'arrêtent, lui rapportent quelque chose, discutent avec lui, parfois longtemps d'ailleurs. Et moi, je l'ai fait aussi. Hein. Je me suis arrêté, j'ai discuté avec lui, on a échangé.
Et vous sentez que ça lui fait du bien de parler avec vous ?
Absolument. C'est de voir que les gens ne sont pas indifférents, prennent le temps d'aller vers cette personne-là qui est peut-être quelque part nous-mêmes dans une autre vie ou peut-être plus tard, parce que ces choses-là peuvent arriver à n'importe qui, comme à tout le monde, comme vous le savez. Après, j'ai découvert, j'ai appris à travers mes discussions avec lui qu'il avait des CV, il essaie de faire des formations pour s'insérer, pour trouver un emploi. Il m'a fait savoir, par exemple, qu'il voulait des heures de ménage ou qu'il connaissait en travaux de bâtiment. Donc, c'est aussi une façon pour moi de lancer un appel. Si quelqu'un en région parisienne a quelque chose, des heures de ménage ou a des entrées dans le bâtiment, il y a un monsieur qui a ce qu'il faut pour travailler, donc qui est sous les ponts à essayer de mouliner.
Oui, voilà, vous essayez de l'aider à s'en sortir.
Voilà.
Merci.
C'est pas quelqu'un qui cherche à vivre au crochet de la société. Ouais. Hein. Il ne demande qu'à travailler.
Et qu'on lui tende la main. Merci beaucoup Abdoulaye pour ce message que vous relayez, et puis pour ce témoignage. Elina Dumont, comment vous viviez le regard des autres au moment où vous étiez à la rue? Est-ce que des réactions comme celle d'Abdoulaye pouvaient vous aider?
Déjà j'étais une femme. Je pense que comme j'étais jeune, j'étais insouciante aussi. Et moi, le regard des autres, je m'en foutais. Enfin, je sais pas, je réfléchissais pas à ça. Et puis, je tiens à dire que la majorité des sans domicile fixe ne reste pas assis. On bouge toute la journée. Je restais pas assise toute la journée à attendre. D'ailleurs, moi, j'ai jamais mendié. Je pouvais pas mendier. Mes potes le faisaient, mais pas moi. Donc.
Et pourquoi vous ne pouviez pas?
Là, je pense parce que il me restait encore ma dignité, quoi.
Donc vous aviez peur du regard des autres sur cette question-là?
Ah oui, et puis voilà, non, je pouvais pas mendier. Je pouvais être roublarde, rusée avec les gens, mais pas mendier. Non, ça je pouvais pas.
Claire Lagenie, à un moment dans votre documentaire, vous demandez à Barbara, sans domicile, âgée de 26 ans, ce qui l'aiderait à s'en sortir. Et elle vous répond qu'on me prenne par la main.
Oui.
Oui, il faut un accompagnement pour ces gens-là.
Parce que comment sortir de la rue seul, finalement, avec même si vous avez encore de l'énergie, même si vous avez la force, même si vous avez l'envie, par où commencer? Tout semble compliqué. Pour la plupart, ils ont perdu leurs papiers. Il faut refaire, même si les associations sont très présentes, des assistantes sociales permettent de remettre en place. C'est compliqué, on vous donne rendez-vous la semaine d'après. Elles oublient le rendez-vous, elles n'ont rien pour noter. Et du coup, c'est le débordement à chaque fois. Donc du coup, on remet ça à plus tard, surtout... Il y a des moments donnés où en fait on perd en fait ses repères en fait, et du coup finalement on sait plus quel jour on est, à quel moment on a rendez-vous, etc. Et voilà, faire des papiers, essayer de se dire je vais chercher un emploi, faire un entretien, ça paraît irréel.
Marianne Storange-Inco, comment on fait pour aider des femmes et des hommes à s'en sortir?
Deux choses. Tout d'abord, par rapport à l'intervention du monsieur tout à l'heure,
Abdoulaye,
vraiment, je pense que c'est extraordinaire ce qu'il fait, parce qu'il va vers l'autre, il le rend visible. Et cet effacement qu'ont les gens de la rue, ne serait-ce qu'un sourire, un bonjour, voilà, c'est les rendre visibles et les rendre humains, parce qu'il y a cette espèce d'effacement des gens. Deuxièmement, oui, il faut tendre la main. Et pour, dans un premier temps, permettre à la personne de se poser, de se reposer, de se retrouver. Et après, pour secouer. C'est pas seulement assister. C'est dire, allez, on y va, on se bouge, on va vous aider. Au début, on y va ensemble. Et puis après, au fil de l'eau, on vous lâche gentiment. Et après, on pousse vers l'extérieur.
Parce c'est un accompagnement personnalisé qu'il faudrait presque.
C'est
individuel.
C'est individuel et c'est personnalisé, sinon ça ne fonctionne pas. Le prêt-à-porter de l'accompagnement, non. C'est que le sur-mesure qui est le bon système.
Et quelle solution pour vous faudrait-il envisager au niveau politique? Qu'est-ce qu'il faudrait? Plus de places d'hébergement d'urgence? Que faudrait-il?
Plus de temps. Lorsque l'on voit, je suis admirative par rapport aux personnes qui travaillent pour les services de l'État, que ce soit à la CAF, à la Sécu, à la préfecture ou chez Pôle emploi. Ils ont une montagne de dossiers et 2 minutes par personne. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est perdu puisse répondre aux demandes? Et ils ont, ces salariés, beaucoup de difficultés. Et après, on dit ça marche pas.
Donc, il faudrait plus de personnel pour avoir plus de temps.
Plus de personnel et plus de temps.
Personne.
Elles sont mises également en échec, en situation de souffrance. Et nous, pas avec. Parce que nous, lorsqu'on veut accompagner et qu'il y a ce manque de temps pour expliquer la situation à la personne, pour décortiquer, pour trouver la pierre qui est dans la chaussure. Dès qu'on l'a trouvée, ça y est, on trouve les solutions. Et ça, ça demande du temps.
Donc plus de personnel et plus de moyens. Claire Lajeunie, quelles seraient les mesures indispensables peut-être à mettre en place pour aider les femmes à la rue ? Des mesures spécifiques ?
Moi, j'ai vu, effectivement, je trouve formidable l'Ami de Pain, parce que j'ai tourné dans beaucoup d'associations qui, à 18h, 19h, on ferme, la cloche sonne, et allons-y, on se retrouve à la rue pour essayer de trouver un lieu d'abri. Donc je trouve que plus il y aura de lieux comme ça qui ouvriront, mieux ce sera déjà. Après, effectivement, on peut discuter sur les modalités, sur effectivement l'accompagnement, etc. Et puis, toute la féminité, je trouve que c'est extrêmement important. Ça maintient effectivement le regard des autres, ça c'est respecter la femme, et je trouve que c'est formidable, les mobiles douches, les salons esthétiques, tous ces bénévoles, tous ces coiffeurs, toutes ces esthéticiennes qui viennent essayer de les maintenir.
C'est très important, très même important. Si en apparence ça ne paraît
c'est
pas
essentiel.
La priorité. Elina Dumont, oui. Arrive à la fin de cette émission, oui. Comment vous en êtes sortie?
Moi, je voudrais quand même préciser quelque chose. Bon, après, il y a beaucoup de gens dans la rue qui ont déjà des histoires d'enfance horribles, mais moi, sans le soin, je ne serais pas là. Faut pas oublier ça, parce que moi, ce qui m'a sauvée, c'est parce qu'il y a un facteur chance aussi de rencontre dans la vie. Et sans plus de 30 ans de psychothérapie, je peux vous assurer que je serai pas là non plus.
Et quel message vous aimeriez faire passer à celles et ceux qui sont encore aujourd'hui à la rue ?
Eh ben, il faut surtout pas hésiter, parce que la rue, ça abîme. J'en sais quelque chose, même si ça se voit pas physiquement, mais à l'intérieur, je sais ce que c'est. Il faut pas baisser les bras, il faut pas avoir peur de demander de l'aide, il faut pas avoir peur de se soigner pour aller mieux, parce que sinon...
Il faut se battre, jour après jour.
Merci
à vous, Elina Dumont, Marianne Storangenko, merci aussi également Claire Lajeunie, merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, sujet éducation. Comme chaque vendredi, nous parlerons de l'école à la maison. À demain, les voisins. RFI Talent présent.